Du pain sur la table.
Dialogue autour de l'Évangile avec André Choquette
et Georges Convert.
Évangile de Jésus selon l'écrit de Luc. Texte de la liturgie catholique romaine pour le deuxième dimanche de l'Avent. Dans la 15e année du gouvernement de Tibère César, Ponce Pilate étant gouverneur de la Judée, Hérode tétraque de la Galilée, Philippe son frère tétraque de Liturée et du pays de Traconide, et Lysianias tétraque de la Bilène, sous le sacerdoce d'Anne et Caïphe, la parole de Dieu est adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Il vient dans toute la région du Jourdain, en proclamant un baptême de conversion pour le pardon des péchés, selon qu'il est écrit dans le livre des paroles d'Isaïe le prophète.
« Voix de celui qui crie dans le désert, préparez la route du Seigneur, rendez droit ses sentiers, tout ravin sera comblé, toute montagne et colline seront abaissées, les courbes deviendront lignes droites et les rocailles deviendront des routes lisses. Et tout être humain verra le salut de Dieu. » Chers auditeurs et auditrices, bonjour. Bonjour André.
Bonjour Georges. Voici un texte bien solennel. Son style évoque tout autant le début du livre de Jérémie que les prologues des récits des historiens grecs. Mais que signifient ces images qui viennent du prophète Isaïe et que le Baptiste utilise dans sa prédication?
Mais regardons où se trouve ce texte. C'est le début du troisième chapitre de Luc. Dans les deux premiers chapitres, Luc, comme Matthieu, d'une manière tout à fait personnelle, a raconté l'enfance de Jésus. Il rejoint maintenant ce qu'on peut appeler le corps des évangiles, ce qui a été transmis aussitôt après Pâques en style oral. Et ce corps des évangiles, autant dans Marc, Matthieu et Luc, commence par la prédication de Jean le Baptiste et le baptême de Jésus. Pour bien comprendre ce passage que nous avons aujourd'hui, il faudrait bien sûr le compléter par les passages qui suivent. Au début de ce texte, Luc va tracer le portrait un peu de l'histoire du monde et de l'histoire du peuple de Dieu. Il va insérer cet épisode dans l'histoire humaine. Alors, regardons comment Luc introduit l'histoire du monde.
L'an 15 du gouvernement de Tibère César.
Tibère César, c'est l'empereur romain, le maître du monde méditerranéen. On est en l'an 782 de la fondation de Rome, l'an 26 probablement de notre ère. Jean va donc arriver en l'an 15 du règne de Tibère.
Ponce Pilate est gouverneur de Judée.
Oui, au nom de l'empereur de Rome, Pilate, un Romain, est gouverneur de la Judée, une des provinces de ce grand territoire, du territoire d'Israël. Il est gouverneur de l'an 26 à l'an 36. Ce territoire recouvre ce qu'on appelle la Judée proprement dit, c'est-à-dire la région de Jérusalem et la Samarie et l'Idumée, la Samarie étant la province qui sépare la Judée de la Galilée. Une inscription qui a été découverte en 1961 appelle Pilate préfet. Rappelons-nous que chaque dimanche, lors de l'Eucharistie, nous mentionnons son nom puisque dans le Credo, nous disons « Jésus a été crucifié pour nous sous Ponce Pilate ». Pilate a d'ailleurs la renommée d'être un administrateur dur et impitoyable qui fera crucifier énormément de gens.
Hérode, tétraque de la Galilée.
Hérode Antipas gouverne la Galilée et la Pérée. Il le fait de l'an 4 avant Jésus à l'an 39 après Jésus. Le royaume de son père, Hérode le Grand, avait été divisé en quatre territoires, gouvernés chacun par un tétrarque. Hérode est souvent nommé dans l'œuvre historique de l'écrivain juif Flavius Joseph. Les évangiles vont nous le présenter comme étant le meurtrier de Jean-Baptiste, mais aussi comme l'adversaire de Jésus. Parce que Jésus était de Nazareth, eh bien, il relevait directement de l'autorité d'Hérode.
Philippe, son frère, tétraque du pays d'Ituré et de Traconide.
Oui, ce Philippe sera sans doute le plus sage des fils d'Hérode. En plus de quelques territoires juifs que Luc ne nomme pas, il gouvernera plusieurs districts païens qui s'étendent au nord-est du lac de Tibériade, le lac de Galilée, et il sera responsable tétrarque de l'an 4 avant Jésus-Christ à l'an 34.
Lysanias, tétraque d'Albilène.
Bien, ce prince était inconnu jusqu'à la découverte en 1912 à Abila d'une inscription qui le désigne effectivement comme tétrarque sous le règne de Tibère. Probablement que Luc le nomme par souci de désigner deux tétrarchies de territoires qui sont peuplées de juifs, comme la tétrarchie de Pilate et celle d'Hérode, et deux autres qui sont peuplées de païens, celle de Philippe et celle de Lysanias. Luc veut donc montrer par là que le Dieu de l'Alliance va révéler son amour non pas simplement au peuple juif, mais au monde entier. Alors après avoir inséré le baptême de Jésus, la prédication de Jean dans l'histoire du monde, Luc va maintenant l'insérer dans l'histoire du peuple de Dieu.
Sous le pontificat d'Anne et Caïphe.
Oui, c'était des grands prêtres. Il n'y a alors, bien sûr, qu'à chaque fois qu'un seul grand prêtre est de l'an 18 à l'an 38, à l'an 36 après Jésus, ce grand prêtre sera Caïphe. Mais son beau-père, Anne, qui a été déposé en l'an 15, exerce encore une influence considérable à travers ses cinq fils qui seront grands prêtres et son gendre, qui vont donc lui succéder tour à tour. Cela explique, lors du procès de Jésus, que l'Évangile mentionne Anne et Caïphe.
Ils le conduisirent tout d'abord chez Anne. Celui-ci était le beau-père de Caïphe, qui était le grand prêtre cette année-là. C'est ce même Caïphe qui avait suggéré aux Juifs qu'il est avantageux qu'un seul homme meure pour le peuple.
Nous sommes donc bien situés dans ce vaste territoire qui est dirigé et orchestré par l'empereur romain Tibère et par ses gouverneurs. À travers cette occupation par les puissances étrangères, la question, bien sûr, c'est est-il possible que le projet de Dieu aboutisse et qu'il aboutisse grâce à la mission de Jean le Baptiste ? Et quel est le projet de Dieu ? Eh bien, avoir un peuple sur lequel il va régner, et pour cela, il faut bien sûr le libérer des puissances étrangères. L'annonce de l'approche venue du Messie suscite l'espérance que des jours meilleurs vont venir des jours de la libération. On peut résumer, dans le fond, tout cela par un verset des Actes des Apôtres.
C'est de la descendance de David que Dieu, selon sa promesse, a fait sortir Jésus, le Sauveur d'Israël. Précédant sa venue, Jean avait déjà proclamé un baptême de conversion pour tout le peuple d'Israël. La parole de Dieu fut sur Jean, fils de Zacharie dans le désert.
Eh bien, cette phrase est sans doute inspirée tout spécialement de la vocation de Jérémie telle qu'on peut la lire au début de ce livre.
À lui, Jérémie, fut adressée la parole du Seigneur au jour de Josias, fils d'Amon et roi de Juda, la 13e année de son règne.
En s'inspirant ainsi du texte de Jérémie, Luc tout de suite nous décrit Jean comme un prophète. Il faut en effet se souvenir qu'aucun prophète ne s'est levé en Israël depuis presque 5 siècles. Le psaume 74 exprime ce long silence. Nos signes ont cessé, il n'est plus de prophète, nul parmi nous ne sait jusque à quand. Le premier livre des Maccabées, qui couvre 40 années de l'histoire d'Israël, depuis l'avènement d'Antiochus Épiphane en 175 avant Jésus jusqu'à la mort de Simon en 134 avant Jésus, eh bien ce livre mentionne aussi cette interruption de la prophétie.
Il sévit alors en Israël une oppression telle qu'il ne s'en était pas produit de pareil depuis qu'on n'y avait plus vu de prophète.
Cette absence de prophète pouvait être, par les fidèles juifs, ressentie comme si la parole de Dieu était devenue muette. Mais Luc nous a déjà averti, quelque chose se prépare, et cela se prépare dans la personne du fils de Zacharie et d'Élisabeth, Jean.
Quant à l'enfant, il grandissait et son esprit se fortifiait. Et il fut dans le désert jusqu'au jour de sa manifestation à Israël.
Le désert, c'est à la fois le lieu de la solitude, mais aussi celui de la rencontre avec Dieu. Depuis quelques années, certains juifs très pieux et hostiles aux grands prêtres, qu'ils considéraient comme n'étant pas de la bonne lignée, ces gens-là, qui considèrent que ces grands prêtres sont des créatures de l'empereur païen parce que c'est lui qui les nomme, eh bien, ils se sont retirés au désert, dans la région de Qumran. On peut penser que Jean a eu quelques contacts avec cette communauté que l'on appelle des Esséniens et qui représente sans doute à ses yeux un mode de vie exigeant et interpellant pour la recherche de Dieu et l'approfondissement spirituel. Cette secte juive vivait ce que rapporte le livre des Maccabées.
Nombre de gens soucieux de justice et de droiture descendirent au désert pour s'y fixer.
Le texte d'Isaïe, « Dans le désert, préparez le chemin du Seigneur », un texte qui va donc servir aux évangélistes pour décrire la mission de Jean, est aussi celui par lequel ces Esséniens expriment leur idéal dans ce que l'on appelle la règle de Qumran. En vivant dans le désert, Jean prépare sa future mission au service du Seigneur.
Il vint dans toute la région du Jourdain proclamer un baptême de conversion en vue du pardon des péchés.
À la différence des trois autres récits, Marc, Matthieu et Jean, Luc nous montre Jean le Baptiste quittant le désert pour prêcher dans la région du Jourdain. Cette contrée constitue pour lui le lieu principal des activités du Baptiste, comme plus tard la Galilée et la Judée seront le lieu de la mission et des activités de Jésus. Ce nouveau prophète, tel un héros, crie à tous un baptême de conversion. Il devient porte-parole de Dieu. L'apôtre Paul le décrira ainsi.
Jean donnait un baptême de conversion. Il demandait au peuple de croire en celui qui viendrait après lui, c'est-à-dire en Jésus.
Alors, que signifie un baptême de conversion? Les prophètes, surtout depuis Jérémie, lançaient des appels constants à faire un vrai retour. La teshuva, comme on dit en hébreu, un vrai retour au Dieu d'Israël, le Dieu de l'Alliance avec Moïse. Pour cela, il fallait rompre avec le principal péché qui était le péché d'idolâtrie lorsque les gens, tout en croyant au Dieu d'Israël, suivaient aussi les cultes païens. Mais ce retour, cette teshuva, était aussi de rompre avec toutes les injustices qui sont contraires à la Torah de Dieu, l'enseignement que Dieu a donné. Ici, de la même manière, Jean demande de changer de conduite et d'avoir un comportement qui traduit une vraie conversion intérieure, ce retournement vers Dieu, ce changement de mentalité. Eh bien, il propose de le vivre et de le réaliser par la réception d'un baptême d'eau. Le judaïsme connaissait déjà de nombreuses ablutions d'eau pour se purifier avant de prier. La communauté de Qumran, les Esséniens, pratiquait aussi des rites d'ablution d'eau. Ils le faisaient fréquemment, deux fois par jour, pour exprimer le désir de changer son cœur. La nouveauté avec Jean le Baptiste, c'est que le baptême est offert à tous, et non pas à quelques-uns, ceux qui sont les plus purs, et qu'il ne se pratique qu'une seule fois, comme étant l'ultime préparation au grand jour du jugement, car pour Jean, le jour du jugement approche. Jérémie, comme tous les prophètes, annonçait déjà ce temps de la conversion. Écoutons quelques passages du chapitre 31 de Jérémie.
« Voici l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël, après ces jours-là, oracle du Seigneur. Je mettrai ma Torah au fond de leur être, et je l'écrirai sur leur cœur. Alors je serai leur Dieu, et eux seront mon peuple. Ils n'auront plus à s'instruire mutuellement, se disant l'un à l'autre, « Ayez la connaissance du Seigneur. » Mais ils me connaîtront tous, des plus petits jusqu'aux plus grands, parce que je vais pardonner leurs crimes et ne plus me souvenir de leurs péchés. »
Le baptême de Jean n'est pas le baptême du Messie, comme il le dira. Luc va exprimer ça très clairement en soulignant la mission spécifique du Messie, telle que Jean lui-même va la décrire.
« Moi, je vous baptise d'eau, mais il vient, celui qui est plus fort que moi, lui, il vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. »
Au début de la formation des premières communautés chrétiennes, Pierre va parler dans le même sens.
« Convertissez-vous, que chacun de vous reçoive le baptême au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit.
La mission de Jean, elle est d'ouvrir la voie qui conduit à Jésus. Ce Messie, annoncé par la bouche de tous les prophètes, qui par toute sa vie, par sa mort et sa résurrection, communiquera l'Esprit même de Dieu. Et c'est l'Esprit qui pardonnera les fautes, en guérissant les cœurs, en mettant en chaque être humain la force de l'amour divin. Paul reconnaît cette vie en Christ qui peut nous libérer de toute forme d'esclavage, de toutes sortes de prisons, de tout faux chemin.
Celui que Dieu a ressuscité n'a pas connu la décomposition. Sachez-le donc, frère, c'est grâce à lui que vous vient l'annonce du pardon des péchés. Et cette justification que vous n'avez pas pu trouver dans la Torah de Moïse, c'est en lui qu'elle est pleinement accordée à tout être qui croit. Tous ces discours d'une mentalité tellement différente de la nôtre peuvent-ils être signifiants dans notre aujourd'hui?
Jean proclame un baptême de conversion en vue du pardon des péchés. Que signifie cette expression? Est-ce que tout ne dépend pas du sens que l'on donne au mot péché? Dans la réalité d'hier et dans celle d'aujourd'hui, le péché n'est-il pas le désir ou l'intention de se détourner de Dieu pour se tourner seulement vers le Créé? C'est-à-dire de mettre sa confiance en soi seul, au lieu de s'ouvrir à celui qui est la source de l'amour. Alors, la parole de l'Évangile peut m'interpeller aujourd'hui. Elle m'interroge sur mon véritable désir de vivre en harmonie avec la source divine. Grâce au don de la foi, l'être humain peut vivre une relation réelle, même si elle est invisible, avec ce Dieu et Père qui nous aime en Jésus. Oui, qui est-il, celui-là qui respecte tellement notre liberté et qui donne discrètement sa vie divine à l'être humain, afin qu'il ne s'enferme pas dans sa suffisance ou dans son angoisse ou dans ses détresses? Ce quelqu'un invisible nous donne Jésus, qui est annoncé par les prophètes comme le chemin de la résurrection. Olivier Clément peut nous aider à faire comprendre un peu ce qu'est ce mystère du Dieu vivant.
Dieu n'est pas juste, il est plus que juste, infiniment. Il est folie d'amour qui ne cesse de descendre dans notre enfer pour nous ressusciter. Chacun de nous est l'ouvrier de la 11e heure, auquel rien d'autre n'est demandé qu'un cri de confiance et d'espoir. Le seul péché, en définitive, c'est de ne pas comprendre la grâce de la résurrection.
Eh bien, ce temps de l'Avent est sans doute pour nous une occasion pour découvrir que nous sommes dignes d'être pardonnés parce que nous sommes dignes d'être aimés de Dieu. Ce sentiment d'être aimé est la condition nécessaire pour vivre le pardon, pour expérimenter le pardon comme ce qui me guérit du manque d'amour, de ce manque d'amour qui m'empêche de vivre pleinement. Oh, peut-être que nous comprenons trop le pardon comme ce qui vient effacer les torts faits aux autres, ou bien les manquements à notre amour de Dieu, le manquement peut-être tout simplement à l'idéal que nous nous sommes fait de nous-mêmes. Non, le pardon est plus large que l'effacement de nos péchés. Il est cette communion rétablie avec un être qui nous communique un amour plus grand que celui que nous vivons. Il est une communion à une source de vie plus forte que nos capacités d'aimer. Écoutons Jean Monbourquette qualifier ce sentiment d'expérience fondamentale.
Fondamentale, car elle procure plus que toutes les autres expériences, le sentiment d'être reconnu et estimé pour ce que l'on est au plus profond de soi. On se sent alors aimé d'une manière inconditionnelle, en dépit de ses laideurs, de ses défauts, de ses insuccès ou de ses transgressions. À ce moment-là, on dirait que le moi profond se savait relié à la source de l'amour et inséparable d'elle. On pourrait comparer ce sentiment à la chaude impression de sécurité et de confiance de l'enfant voulu et aimé pour lui-même par ses parents. Bien qu'on puisse éprouver une grande culpabilité à la suite de fautes ou d'erreurs, le sentiment d'avoir été pardonné est encore plus fort. Il procure l'assurance de ne plus jamais perdre cette source d'amour infini. On sait qu'on peut, en tout temps, revenir s'abreuver à cette source et se revoir confirmé dans l'amour.
Comme il est écrit au livre des oracles du prophète Isaïe, Luc va reprendre ce poème d'Isaïe, un poème qui apportait une consolation à Israël alors que Israël vivait en exil à Babylone dans les années 550 avant Jésus. Le prophète annonçait ainsi le retour d'Israël, un retour qui serait l'œuvre de Dieu. Le Seigneur lui-même va se mettre à la tête de son peuple et il conduira son peuple comme en un nouvel exode de Babylone pour revenir vers Jérusalem. Par cette évocation, Luc situe ainsi Jean dans la lignée des grands prophètes. Déjà, il accomplit la première étape de la réalisation de la consolation d'Israël.
Une voix crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers.
Il vient, enfin, celui que le peuple attend et qu'il attend depuis si longtemps pour accomplir la grande libération. Le Baptiste s'implique donc avec toute son ardeur pour préparer cette venue imminente. Même s'il vit dans le désert, il ne reste pas caché à la vue du monde. Il sort et les gens viennent à lui, comme le spécifie l'évangéliste Marc. Tout le pays de Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de Jean.
Tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées. Les passages tortueux seront redressés, les chemins rocailleux aplanis.
André Chouraqui, l'exégète juif, rappelle le sens symbolique qu'on a donné à ces expressions imagées. Le val, la vallée, représenterait les pauvres, ceux qui sont au bas de l'échelle sociale. Les montagnes, les collines, représentent ceux qui dominent les pauvres, ceux qui dominent le peuple. Le tortueux, eh bien, c'est le pouvoir romain qui oppresse Israël. Et les escarpements, les chemins rocailleux, ce seront les obstacles qui se dressent sur la voie qui mène vraiment au Seigneur Dieu. Tous ces symboles de pauvreté, d'oppression, de pouvoir, eh bien, existent encore et toujours malheureusement. Donnons-en peut-être quelques exemples pour aujourd'hui. On a vu qu'au Québec et dans le monde maintenant, se crée une solidarité des femmes devant les situations d'iniquité sociale. Rappelons un texte du Réseau des femmes du Québec qui a été écrit en 1997 et qui est toujours tout aussi valable. Elle crie aussi comme criait déjà Jean le Baptiste.
Dans ce monde, les femmes et leurs enfants sont les premières victimes des décisions de la haute finance et de ses basses œuvres. Plus de la moitié du monde, en ses enfants, est pauvre, marginal et maintenu en état de survie. Ça suffit. On nous dit qu'il faut sabrer dans les acquis sociaux parce qu'on n'a pas le choix, qu'il faut atteindre le déficit zéro et maintenir la cote de crédit. C'est comme si on nous disait qu'on n'a pas le choix d'ignorer et de mépriser la majorité d'entre nous. Il y a toujours moyen de faire autrement. Il y a toujours d'autres solutions que le mépris. Le respect des personnes en soi est un choix. Ce monde tel qu'il est ne fonctionne plus. En ce moment, certains se dépêchent de partir avec la caisse. Quelques-uns s'enrichissent sur le dos de toutes et de tous avec la complicité de l'État. Nous exigeons de nos gouvernements qu'ils mesurent les effets de leur politique sur les conditions de vie des gens plutôt que sur leur cote de crédit. Nous choisissons de croire que l'amour est plus fort que tout, même s'il n'est pas coté à la bourse. Nous croyons encore que l'amour est la seule issue. Ce n'est pas un excès de romantisme, c'est une affirmation politique. À jamais, nous refusons d'obéir aux consignes de guerre, aux consignes de la mort comme mode de vie.
Eh bien, rappelons aussi que le 17 octobre, chaque année, est devenue la journée internationale pour l'élimination de la pauvreté. Et cela depuis qu'un fils de pauvre, le père Joseph Wyszynski, a lancé lui aussi un cri de détresse. Là où des humains sont condamnés à vivre dans la misère, disait-il, les droits de l'être humain sont violés. S'unir pour les faire respecter est un devoir sacré.
Et tout être humain verra le salut de Dieu.
À la différence du récit de Marc et de Matthieu, Luc a poursuivi la citation d'Isaïe pour dire que le salut est pour toute chair, comme dit la Bible, c'est-à-dire pour tout être humain, quel qu'il soit. Le Messie qui vient ne limitera pas sa mission au seul Israël. Son message et son action seront pour libérer tout être humain, de quelque race soit-il. Il est toujours tentant, en effet, de croire que le salut arrivera si ce sont les autres qui changent. Et il est facile de désigner les méchants comme étant les autres. Bien des groupes religieux juifs se laissaient aller à l'époque de Jean le Baptiste à cette tentation. Les Esséniens classaient les juifs en fils de lumière, et c'était eux bien sûr, et en fils de ténèbres qui étaient tous les autres. Les Zélotes attendaient la libération de l'écrasement des Romains qui seraient chassés d'Israël. Jean le Baptiste, lui, appelle tout un chacun à changer sa vie. C'est d'abord sur soi-même qu'il faut travailler. Ce ne sont pas seulement les autres qui doivent changer. Luc le dira clairement aux soldats et aux percepteurs d'impôts, partage, n'exploite personne, n'use pas de violence. Eh bien, aujourd'hui encore, ne prêchons pas seulement la conversion aux autres, mais d'abord à nous-mêmes. Le Messie, qui vient sans cesse dans notre vie, souhaite faire du neuf avec nous. Car il ne peut faire du neuf qu'avec des êtres renouvelés. Aujourd'hui comme hier, la communauté que le Messie Jésus veut rassembler est une assemblée d'êtres qui sont en continuel chemin de conversion, d'êtres qui sont renouvelés parce qu'ils se laissent prendre par l'Esprit de Dieu, par son amour. Oui, nous sommes tous appelés à préparer le chemin de Dieu là où nous vivons et pour aujourd'hui.
C'était Du pain sur la table, une émission de l'École de la foi de Montréal. Si vous désirez le texte de l'émission ou la cassette audio, téléphonez au numéro 514-256-4110.
256-4110. Vous pouvez vous abonner au feuillet ou aux cassettes. Téléphonez-nous, nous vous donnerons les tarifs.
Du pain sur la table est diffusé le samedi à 8h30 et en reprise le dimanche matin à 5h30. Choix musical et enregistrement, Jean B. Duchaud.
Chers auditeurs et auditrices, à la semaine prochaine, ne laissons pas le pain sur la table sans en faire notre nourriture.